Shavuot Tov à tous, on m'a demandé de parler sur Shavuot. Maintenant, on sait que le Ham Israël, on est en processus. Et pour arriver à Shavuot, il y a tout un processus qu'il faut essayer de comprendre pour savoir quel est le but et qu'est-ce qu'on va recevoir à Shavuot. Alors, dans un premier temps, il faut savoir une règle. Une règle que le Ramchal rapporte, le Rabbi Moshe Chaim Lutzato rapporte dans le Da'at Udvunot. Il explique que le Zman, le temps, c'est une rencontre avec la conduite divine, une conduite divine particulière, et cette conduite divine particulière, elle revient à cette date précise. Je vous donne un exemple qu'on a souvent parlé, mais ça met du temps avant de comprendre pour pouvoir vivre véritablement la chose. On sait que le 15 Nissan, le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, le 15 du mois de Nissan. Mais en vérité, le 15 Nissan s'est réalisé le potentiel de ce jour-là. Ce jour-là du 15 Nissan a un potentiel de permettre de nous faire sortir de Mitzrayim, d'Égypte. L'Égypte, c'est seulement un nom. Mitzrayim, c'est l'étroitesse de la vie, des souffrances de la vie, de l'esclavage de la vie, etc. Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque le peuple d'Israël, il y a eu un événement historique, le 15 Nissan 2448, où le peuple d'Israël est sorti d'Égypte. En fait, il y a eu une Nagatashen, une conduite divine, une action divine, qui a permis au peuple d'Israël de sortir d'Égypte. Mais chaque année, le 15 Nissan, cela revient. Qu'est-ce que ça veut dire? De là, nous avons l'obligation de sentir, de vivre notre sortie d'Égypte à l'année particulière. On vient de quitter Pessah en 5782. Le 15 Nissan de l'an 5782, nous avons eu le devoir de sortir de Mitzrayim, de cette valeur spirituelle qui s'appelle Égypte, qui s'appelle Mitzrayim. Et une personne qui a vécu ça, il a été libéré ce soir de Pessah. Pessah, ce n'est pas une fête qui rappelle un événement passé qui est très très loin de nous. Au contraire, c'est quelque chose qui est vécu Bayamim Ahen Bazemanazé, c'est-à-dire à ce moment-là, à cette époque-là, nous avons vécu quelque chose de très grand et nous vivons quelque chose de très grand, qui est la sortie d'Égypte de cette année. Toutes les mitzvot de Pessah nous permettent de vivre ça. C'est-à-dire que c'est quoi les mitzvot toutes les mitzvot de manger de la matzah, de pas manger du hametz, etc. C'est pour nous permettre de vivre notre sortie d'Égypte à cette année particulière. Bien fait. Maintenant, nous savons que lorsque nous sommes sortis d'Égypte, nous sortons de Pessah, nous avons une grande période. Cette période, elle est de Pessah en passant par 49 jours, les 49 jours du Homer, pour arriver à Shavuot. Ça va? Maintenant, il faut savoir que dans la Torah, il y a des schémas qui se répètent d'une manière différente, un peu différente, mais des schémas qui se répètent. Je vous donne un exemple très simple. Et ben, justement, par rapport à Shavuot. Il y a trois fêtes, Shlosh Taregalim, les trois fêtes de pèlerinage, les trois fêtes qui se répètent chaque année, Pessah, Shavuot et Sukkot. C'est les trois fêtes où le Ham Israël avait le devoir de monter à Jérusalem pour voir la présence divine à Jérusalem. C'est les Shloshet HaRegalim, les fêtes de pèlerinage, Pessah, Shavuot et Sukkot. Maintenant, on va prendre l'exemple de Sukkot. Sukkot, cela commence aussi la moitié du mois, la moitié du mois de Tishrei, le 15 Tishrei. Et on se pose la question, combien de jours la fête de Sukkot? La fête de Sukkot a 7 jours. Pendant 7 jours, nous fêtons la fête de Sukkot. Au bout de 7 jours, le premier jour de Sukkot étant un Yom Tov, le dernier jour de Sukkot étant Hoshana Rabba. Il s'appelle aussi Hoshana Rabba. C'est le 7e jour de la fête de Sukkot. Et on se pose la question, est-il un Yom Tov ou un Chol HaMoed? Alors, tout le monde sait que le dernier jour de Sukkot, Hoshana Rabba, c'est un Chol HaMoed. On fait les hakafot, on a minhag depuis pas très 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 longtemps de ne pas dormir toute la nuit, d'étudier toute la nuit, de faire des tikkunim, etc., etc. Ça s'est propagé dans l'Am Israël. Mais le dernier jour où on va prendre le loulav et on a le devoir de manger dans la souka, cela ne dure, et je parle seulement des fêtes en Eretz Israël, en dehors du pays d'Israël, c'est plus compliqué, mais en Israël, c'est très simple. 7 jours de la fête de Sukkot, comme la Torah nous dit que pendant 7 jours, on doit s'asseoir dans la souka. Et on remarque que le lendemain de ce 7e jour, on a Shemini Atzeret. Qu'est-ce que c'est ce Shemini Atzeret? C'est un Yom Tov. C'est une fête de la Torah. C'est la fête de Shemini Atzeret. Mais bizarrement, il n'y a pas de Loulav et il n'y a pas de Souka. Pourquoi? Bizarrement, parce que on te dit Atzeret. Que veut dire le mot Atzeret? Le 8e jour qui clôture la fête de Sukkot. Le Midrash bien connu dit que HaKadosh Baruch Hu a dit au peuple d'Israël, pendant les 7 premiers jours de Sukkot, vous avez fait 70 sacrifices en rapport aux 70 nations. Et viendra le jour de Shmini Atzeret, le 8e, c'est seulement une fête entre moi, dit HaKadosh Baruch Hu, et vous, le peuple d'Israël, une fête intime entre vous et moi, et on va se retrouver le jour, le 8e jour de Sukkot, qui est appelé 8e, mais c'est le jour de clôture de la fête de Sukkot, sans loulav et sans souka. Et il s'appelle Atzeret. C'est-à-dire, donc, si on a ce schéma-là, on pense que ça va se répéter le jour de Pessah, pour la fête de Pessah. Et en effet, on trouve bizarrement que Pessah, elle aussi, la fête de Pessah commence le 15 du mois, le milieu du mois, mais le mois de Nissan, 15 Nissan, le premier jour de Pessah, bien sûr, le premier jour de Pessah, c'est un Yom Tov. Le deuxième jour est un Chol HaMoed, etc., etc. Et la question, c'est quand se finit la fête de Pessah? En fait, la fête de Pessah se finit le 7e jour de Pessah, qui a aussi un Yom Tov, et pas un Chol HaMoed, contrairement à Sukkot. Et on s'attend à ce que le lendemain du 7e jour de Pessah, il y ait aussi un Shmini Atzeret, un 8e jour, qui viendrait clôturer la fête de Pessah, à l'image de Sukkot. Maintenant, qu'est-ce qu'on découvre? Que le lendemain du 7e jour de Pessah, il n'y a pas de 8e jour. Il n'y a pas de 8e jour. Il n'y a pas de 8e jour de fête de clôture. Il n'y a pas de Shmini Atzeret à Pessah. Il s'arrête le 7e jour. Et on s'étonne. Comment c'est possible qu'à Sukkot, on a le droit à une fête de clôture, un Shmini Atzeret, un 8e jour qui vient clôturer la fête. Et à Pessah, on n'a pas de fête de clôture. Alors, lorsqu'on lit le Rambam Nachmanide sur la Torah, vient nous expliquer le secret de Shavuot. Shavuot, dans la Torah, son nom est appelé Atzeret. Atzeret, ça veut dire fête de clôture. Et le Rambam Nachmanide nous explique qu'en fait, la fête de clôture, la fête qui vient finir, clôturer Pessah, ce n'est autre que la fête de Shavuot. C'est-à-dire qu'il faut voir le temps d'une manière totalement différente entre Pessah et Shavuot. Pessah le premier jour, tous les jours entre Pessah et Shavuot sont comme, c'est pas vraiment, mais sont comme des Chol HaMoed, des jours de demi-fête. Et le 8e jour de Pessah, ce sera Shavuot, il viendra clôturer Pessah. Donc déjà, un point très fondamental, voir Shavuot comme la continuité et la fin de Pessah, et pas comme une fête en soi. Parce qu'on a la tendance à dire, il y a Pessah, il y a Shavuot, il y a Sukkot, trois fêtes et distinctes. Non, on a Pessah à Shavuot et Sukkot. Maintenant, on apprend que d'après les Mikoubalim, d'après les Kabbalistes, il y a un minhag très particulier, de ne pas se couper les cheveux depuis Pessah jusqu'à Shavuot, même en passant par après la Gbaomer, même en passant le Lad Baomer, etc., etc. Le minhag, la coutume est de ne pas se couper les cheveux. Pourquoi? Parce que justement, c'est comme des jours de Chol HaMoed. Maintenant, ces jours de Chol HaMoed, c'est des jours de joie. Pourquoi? Parce que on passe de la fête de Pessah et on s'élève à la fête de Shavuot. Mais voir que le but ultime de Pessah, c'est d'arriver jusqu'à Shavuot. Maintenant, on s'étonne. À Sukkot, nous avons pu trouver, oui, un 8e jour de Sukkot, tout de suite après Sukkot, mais après ça, on n'a pas trouvé ça. Alors, il faut comprendre d'abord le niveau, au niveau, le secret des chiffres. Le Maharal de Prague, il y a 400 ans, nous enseigne que chaque chiffre qui sont donnés à la Torah, ils ont une signification. Alors, c'est une chose très, très, très connue, que HaKadosh Baruch Hu a créé son monde en 6 jours plus 1, le jour du Shabbat, qui faisait partie aussi de la création du monde. Ce qui veut dire que quoi? Que la création du monde après la Torah est sous le chiffre de 7. Sheva. Sheva, c'est le chiffre qui veut dire 7, et c'est le chiffre de la nature. Et lorsque on veut que HaKadosh Baruch Hu désire que nous allons accueillir certaines valeurs, alors il faut passer par une période de 7. Par exemple, très simplement, Hachem, il veut que nous soyons avec le Loulav, avec la Souka. Il n'a pas demandé ça de faire un jour, deux jours. On fait ça pendant 7 jours. Hachem veut qu'on se sépare du Hametz pendant la fête de Pessah, alors il demande qu'on se sépare du Hametz pas pendant un jour, deux jours seulement, ni trois jours, mais 7 jours. Pourquoi? Parce que 7 jours, c'est un cycle. On le voit aussi au sujet des années. Les années, on a des cycles de 7 années, de 7 ans, etc., etc. Maintenant, on s'étonne, est-ce qu'une fête, Elle est dans la nature. Pourquoi on aurait une fête le huitième jour? Eh bien, justement, le huitième jour, c'est une fête qui dépasse la nature. C'est une fête qui relève du chiffre Shmoné, Shmona, Shin, Mem, Nun, He. C'est les quatre lettres qui forment ce mot-là. Et ce chiffre 8 nous enseigne le Maharal de Prague. Si le 7, c'était le chiffre de la nature, 8, c'est le chiffre au-dessus de la nature. C'est-à-dire, même la forme est très particulière du 8, c'est une forme infinie, c'est pas quelque chose de fini, c'est quelque chose qui est au-delà c'est infini, au-delà du fini, au-delà de la création, et c'est un chiffre qui relève du domaine surnaturel. Ce qui veut dire que quoi? Que Shmini Atzeret, c'est quelque chose qui nous parle de quelque chose de surnaturel, au-dessus de la nature, c'est le chiffre 8. Maintenant, à Sukkot, qu'est-ce qu'on a? Au bout de 7 jours, où on était dans la nature, mais on peut parler même de Soukhot de manière très claire. On a le loulav, c'est des herbes, c'est des plantes, c'est un bouquet de fleurs. La souka, c'est quelque chose de très très concret dans la nature. On prend les restes de ce qui reste après les moissons et de ce qui reste au champ pour en faire le sraf, pour en faire une souka, pour se protéger. On est dans la nature, on est en dehors de la maison. Une fois qu'on a passé le domaine de la nature, on est capable de s'élever tout de suite au degré 8, au degré du surnaturel. Maintenant, à Pessah, on découvre qu'on n'était pas capable de passer du naturel au surnaturel. Le lendemain du septième jour de Pessah, c'est vrai qu'il y a la Chag HaMimouna, on a oublié, mais le huitième jour de Pessah n'est pas une fête. On n'est pas réussi à sortir du domaine de la nature. La nature n'a pas été un tremplin pour traverser la nature, arriver dans un domaine surnaturel. Alors, qu'est-ce que nous avons reçu? Alors, la réponse qui est donnée en général est la suivante. Soukhot a été précédé par un mois de Slichot pour nos frères Sfaradim, un mois de Shofar pour nos frères Ashkenazim. Il a été précédé par Rosh Hashanah. Il a été précédé par Aseret Yemei Teshuva, les 10 jours de pénitence de Teshuva. Il a été précédé par Yom HaKippourim. Il est clair que lorsque l'homme a évolué, a grimpé à travers ce mois de Chodesh Elul, de Teshuva, de Khapara, de Kapara, d'expiation, etc. C'est sûr qu'il est prêt, après Soukhot, tout de suite arriver au numéro 8, au niveau surnaturel. Et il arrive forcément en Shmini Atzeret. Mais à Pessah, ça s'est pas fait. À Pessah, lorsqu'on est sorti d'Égypte, je rappelle ce que le Midrash dit, on était au 49e degré d'impureté. Et là, pour pouvoir arriver, s'élever, alors il faut faire un travail. Quel travail il faut faire? Une élévation de jour, chaque jour, entre Pessah et Atzeret et Shavuot, pour s'élever spirituellement dans le domaine de la nature et pour arriver au surnaturel. Ce qui veut dire qu'il va avoir 7 semaines de 7 jours. 7 fois 7, c'est la nature, c'est 49. Lorsqu'on arrive à dépasser ce niveau-là de la nature avec un effort énorme chaque jour, une bracha particulière pour chaque jour, pour cette élévation spirituelle, alors on arrive à atteindre le 50e jour. Mais le 50e jour, c'est ce qui correspond au huitième jour, on a dit c'est à Tseret, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature, c'est quelque chose qui dépasse le cadre naturel de l'homme. Bien fait. Donc on a les deux schémas. Les fêtes, le Chodesh Elul, le mois de Elul, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot et le summum, Shmini Atzeret. On a un autre schéma, Pessah, qui monte par la période du Homer. 7 fois 7, 49 jours d'élévation dans le monde de la nature, où on se parfait dans la nature jusqu'à être capable de dépasser la nature et arriver au degré surnaturel, qui est le 50e jour, c'est Shavuot, le Shmini Atzeret, c'est le 8e jour de Pessah qui vient clôturer la fête de Pessah. Avant de continuer, est-ce que vous avez des questions? Attendez, alors, je vais vérifier les questions parce que je vois qu'il y en a plusieurs, mais si on... Ok, non, on ne savait pas du tout qu'à Shavuot, on allait recevoir la Torah. Juste, on fait un état de fait que à Pessah, justement, peut-être comme c'était pas prévu depuis le début, on parle pas de Shavuot, et là, à Pessah, ils sont sortis d'Égypte et il va avoir un sentiment que le Ham Israël va commencer à comprendre qu'il va devoir s'élever spirituellement. Est-ce que jusque-là, par rapport à ça, est-ce que vous avez des questions? Parce que ça va se compliquer. Ok, maintenant. S'il y a une question que vous écrivez, je répondrai, mais ça tâche. Maintenant, regardez. Si on a ce schéma de Pessah et Atzeret, de Pessah, donc la fête de Pessah, à Pessah, où sont les 70 nations? Alors, il semblerait que pour l'instant, on n'a pas les 70 nations à Pessah, ou d'une manière très cachée, on les travaille dans la nature. par rapport aux 7, 7 fois 7, c'est dans le monde de la nature, on vient réparer. Mais c'est très, très caché à Pessah. À Pessah, c'est très Israël. On est en train de construire le cœur des nations avant de se donner aux nations. Alors, c'est très tourné vers le peuple d'Israël. Une preuve, c'est qu'à Pessah, on n'a pas le droit, hein, qu'à notre table, un étranger. Il n'a pas le droit de manger du sacrifice de Pessah. C'est très, très particulier à Israël. C'est comme si le cœur, on est en train de s'occuper du cœur avant de s'occuper des membres du corps. Mais une fois que le cœur est construit, alors on peut avoir Soukhot. On peut se tourner vers les nations. On peut avoir cette ouverture pour les nations. C'est-à-dire, mais c'est vrai, c'est Pessah. Kol ben nechar lo yochalbo. Le fils de l'étranger ne pourra pas manger du corban de Pessah. Bien fait. Maintenant, regardez. Malgré tout, ça se passe dans le désert. C'est-à-dire qu'il y a un point très important. Ça ne s'est pas passé en Eretz Israël. Dans le désert, c'est un no man's land. Ça appartient au monde entier. Le monde entier nous regarde. Ça concerne le monde entier, mais il y a une préparation intime au sein même du peuple d'Israël. Bien fait. Maintenant, on y va. Entre Pessah et Shavuot, donc, il y a une élévation spirituelle. Maintenant, vous allez, très simplement, on a deux fêtes, Pessah, Shavuot. Et on a deux termes. Le terme, le corps, gouf, et le terme, neshama, l'âme. C'est-à-dire, si on devait associer les deux mots, Pessah et Shavuot, est-ce que c'est gouf ou neshama? Alors, c'est très simple. Nos Rachamim nous disent qu'à Pessah, lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, nous étions au 49e degré d'impureté. Alors forcément que le côté de l'âme était totalement caché. C'est-à-dire, on ne voyait pas la spiritualité du peuple d'Israël. On n'était pas capable de voir la spiritualité du peuple d'Israël. Et par conséquent, si Pessah exprime quelque chose, alors il exprime le corps d'Israël, mais il n'exprime pas l'âme d'Israël. Or, à Shavuot, le âme Israël s'est élevé à un tel point qu'il est arrivé au 49e degré de pureté. Et le 50e jour, le jour de Shavuot, alors là, on va mettre plus en avant le côté de la Neshama, le côté de l'âme. Et une chose extraordinaire que le peuple d'Israël a fait, le jour de Shavuot, qui, d'après notre explication, est considéré comme le Shmini Atzeret de Pessah, quelle est la fête particulière? Alors regardez bien. Autant à Pessah, il y a des mitzvot particulières. Interdiction de manger du chametz. Et le premier soir de Pessah, toutes les mitzvot du Seder. Mais sinon, à Shavuot, on n'a aucune mitzvah particulière. Il n'y a pas un objet de mitzvah particulière, à part les sacrifices qui sont des sacrifices particuliers. Mais au niveau de l'individu, on n'a pas un objet à prendre comme une chanoukia, comme un chauffard, comme un loulav. Et il en est de même à Shmini Atzeret de Sukkot. Shmini Atzeret de Sukkot, il n'y a plus de loulav, il n'y a plus de soukha, il n'y a pas un objet particulier. C'est une fête où il n'y a pas un acte de mitzvah particulière, à part, Otpam, encore une fois, les sacrifices. Mais au niveau, dans ma vie, je suis dans ma maison, en train de manger le repas de fête, mais il n'y a pas une mitzvah, un acte de mitzvah particulière. Et les Chachamim, vous connaîtrez nos sages et le peuple d'Israël, a fait attention qu'à Shavuot, lorsqu'il n'y avait pas de mitzvah particulière, comme la fête de Shavuot, c'était le don de la Torah. On a reçu la Torah. Qu'est-ce que l'âme Israël a fait? Le Shmini Atzeret de Sukkot, on a fêté, on a marqué Simchat Torah. Simchat Torah, c'est venu très tard. Je vous rappelle qu'avant l'époque des Géonim, on finissait le cycle de la lecture de la Torah en 3 ans. Et ensuite, à partir des Géonim, on a eu un cycle d'un an de Simchat Torah en Simchat Torah, de Shmini Atzeret en Shmini Atzeret, on finit la lecture de la Torah. Mais on a compris, la pensée d'Israël a compris, l'âme d'Israël a compris, que le jour de Shmini Atzeret, il fallait fêter la chose qui est au niveau de l'âme. Et l'âme, c'est la Torah. Avant les mitzvot, avant un loulav, avant une tsouka, il y a l'âme d'Israël qui est la Torah. Par conséquent, à Shmini Atzeret, l'âme d'Israël a dit, il faut fêter la Torah, Simchat Torah. Et l'âme d'Israël, donc depuis plus de 1500 ans, on a commencé à fêter Simchat Torah. Alors, ce n'est pas du tout marqué dans la Torah. La seule chose qui est marquée dans la Torah, que Shmini Atzeret, ça vient clôturer. Mais si Atzeret, ça clôture quelque chose, c'est le niveau 8, alors forcément qu'il faut rencontrer la Torah. Pourquoi? Parce que le mot Shmoné, le Mispar 8, c'est les mêmes lettres, Shin, Mem, Nun, He, c'est les mêmes lettres qui forment le mot Neshama. Le mot Neshama, le mot qui veut dire âme. Bien forcément, lorsqu'on parle de cette dimension qui est surnaturelle, qui est au-dessus de la nature, qu'est-ce qu'on rencontre? On rencontre l'âme d'Israël, qui est dans la nature, mais au-delà de la nature, qui est dans ce monde, mais qui n'est pas de ce monde. Une grande différence que le Kuzari exprime tout au long de son livre. Maintenant, on a donc le schéma parfait. On a la fête de Sukkot, Shmini Atzeret de Sukkot, la fête de Pessah et le Shmini Atzeret de Pessah qui n'est autre que Shavuot. Mais Akadosh Baruch Hu nous a ça la Nutova. Il nous a fait, il nous a donné un cadeau énorme. Ce cadeau, c'est que dans notre génération, des événements historiques et des fêtes ou des demi-fêtes ou des dates qui ont été marquées par le peuple d'Israël vont être semées dans toute la période entre Pessah et Shavuot. Alors on y va. Le mois complet qui se trouve entre Pessah et Shavuot, c'est le mois de Iyar. Aleph Yud Yud Resh. Aujourd'hui, on est souvent contre les réseaux sociaux, les WhatsApp, etc., etc. Mais grâce à ça, tout l'homme Israël sait que le mois de Iyar, Aleph Yud Yud Resh, c'est les Rachet Evot, c'est les anacrostiches de Ani Yud Yud, Hachem, c'est Dieu. Yud Yud, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu, c'est une référence au nom de Dieu. Resh Rofecha. Resh Rofecha, c'est ton médecin. Je suis Hachem, ton médecin. Pendant le mois d'Iyar, pendant le mois qui suit Pessah, Hachem vient et nous soigne. De quoi il nous soigne? C'est très simple. Pessah, c'était la naissance du peuple d'Israël, comme cet enfant, ce bébé qui vient de naître. Et il va arriver à la fête de Shavuot au stade d'être un homme, au stade d'être une personne que ce corps-là dévoile la Neshama. En fait, il va y avoir toute une période où Akadosh Baruch Hu va construire l'homme qui est en lui, va construire l'âme dans ce corps-là. Cette période-là, elle est représentée par le mois de Iyar, le mois de Ani Hashem Rofecha, où Akadosh Baruch Hu nous soigne de toutes les souffrances qu'on avait en Égypte, de cette naissance-là, pour nous permettre de dévoiler, d'emmener cette âme-là. Maintenant, quel est le premier événement historique que l'on rencontre dans le mois de Iyar? Comme par hasard, ou pas du tout comme par hasard, là, par la volonté d'Akadosh Baruch Hu, on a la fête de Yom Ha'atzmaut. La fête de Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, c'est le 5 Iyar. Maintenant, il faut savoir que le Gaon de Vilna, il y a plus de 250 ans, disait que le 5 Iyar, cette date-là, était une date propice à la Géoula. À tel point que ses élèves du Gaon de Vilna fêtaient cette date-là. Le Hébi Iyar, c'est un mois spécial dans la période du Homer. Pourquoi? Parce que c'est le jour où la Géoula viendra. Et en effet, il s'est avéré, il y a plus de 74 ans exactement, en 5708, en 1948, la naissance de l'État d'Israël. Maintenant, qu'est-ce qui est bizarre? Pessah, c'était justement cette libération de la main des nations, de la main de l'Égypte. Pendant 210 ans, on était opprimés et oppressés par les Égyptiens. Et on trouve pour la première fois notre naissance, notre libération. Anochi Hashem Elokecha, je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir d'Égypte, qui t'a donné la liberté. Et on retrouve le Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance, qu'après 2000 ans d'exil, de nouveau, le peuple d'Israël retrouve sa place parmi l'indépendance des nations, parmi les nations du monde, et retrouve sa place politique. Qu'est-ce que ça nous rappelle? Est-ce que Yom Ha'atzmaut nous rappelle Pessah ou nous rappelle Shavuot? Ou je donne en d'autres termes. Est-ce que Yom Ha'atzmaut, ça met en avant le gouf, le corps, ou ça met en avant le spirituel, la neshama, l'âme? Alors, votre réponse est claire. Yom Ha'atzmaut, le jour de l'indépendance de l'État d'Israël, ça met en avant le gouf, le corps national d'Israël, le corps de cette nation qui était perdue pendant 2000 ans en exil, dispersée dans les quatre coins du monde et qui revient et qui renaît. Est-ce que ça met en avant la spiritualité? Non, encore mieux que ça. Les personnes qui étaient à la tête de ce même État n'étaient pas des personnes qui menaient en avant le côté spirituel d'Israël. Certes, ils ont réitéré le droit d'Israël sur sa terre au nom de la Bible, au nom du Tanakh, mais ils ne sont pas venus dans un but d'emmener la spiritualité dans le monde et là, de reconstruire une nation, de reconstruire un peuple. Et ça s'est passé le 5 Iyar, Yom Ha'atzmaut. On peut lire aussi, c'est les mêmes lettres, Ha'atzmaut, Otzma, puissance, mais aussi Etzem. Etzem, c'est l'essence, mais Ha'atzamot, c'est les os. Etzem, c'est aussi un os. C'est quoi un os? C'est justement le cadre, c'est justement la structure de l'homme. Qu'est-ce que va faire cet homme? L'avenir le dira. De la même façon qu'à Pessah qui est né, une nation est née. Que va faire cette nation? Que va dire cette nation? Qu'est-ce qu'elle va apporter cette nation de plus que les autres nations? L'avenir le dira. Est-ce qu'il va être capable, ce corps, de dévoiler l'âme qui a fait naître ce corps? Et on remarque aussi que le Hébéiar, le 5 Iyar, il est beaucoup plus proche au niveau du temps de Pessah que de Shavuot. Et on continue à s'élever, parce qu'on a bien compris qu'on passe de Pessah, le corps, et qu'on continue à s'élever jusqu'à la Neshama. Mais une des premières stations, c'est Yom Hatzmaut. La troisième station, Pessah, première station, deuxième station, Yom Hatzmaut, troisième station, nous avons Pessah Sheni. Alors c'est vrai que Pessah Sheni est rappelé dans la Torah, mais il s'est greffé à Pessah Sheni l'histoire, la Hiloula de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, il faisait partie des nouveaux élèves de Rabbi Akiva après la fameuse épidémie, la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et il s'est passé une chose que l'homme Israël fête Rabbi Meir Baal HaNes, la Hiloula, le jour de Pessah Sheni. Qu'est-ce que c'est Pessah Sheni? Pessah Sheni, c'est justement le fait que HaKadosh Baruch Hu donne une possibilité de se rattraper pour toutes les personnes qui n'ont pas pu arriver à Jérusalem et faire le sacrifice de Pessah, ou toutes les personnes qui étaient impures et qui, elles aussi, n'ont pas pu faire le sacrifice de Pessah. Or, c'est quelque chose de très spécial. On n'a pas retrouvé de fête de rattrapage de Moed Bet, comme on dit en hébreu, pour Rosh Hashanah, ou pour Kippour, ou pour Hanouka, ou même pour Yom HaTzmaout, mais pour Pessah, oui. Parce que c'est la naissance. Si on rate sa naissance, alors la suite va être très, très, très compliquée. Donc, HaKadosh Baruch Hu donne une possibilité à Israël de ne pas rater sa naissance, de faire Pessah Sheni. Et en fait, c'est l'enseignement de Rabbi Meir Baal HaNes. Rabbi Meir Baal HaNes, lui, qu'est-ce qu'il enseignait? Ben kar ou ben kar nikraim banim. Que l'homme Israël se comporte d'une façon ou d'une autre, il reste les enfants d'HaKadosh Baruch Hu. Lorsque tu vois dans l'homme Israël qu'il est ben, qu'il est fils d'Hachem, et tu mets de côté le comportement extérieur, cela met en avant quoi? La naissance. Cela met en avant le goût. Cela met en avant pas le yin de la neshama, parce que la neshama, on la voit pas dans une personne qui va à l'encontre des valeurs spirituelles d'Israël. Mais d'un autre côté, il voit, tu es né juif. À Kadosh Baruch Hu, ta mère t'a donné cette neshama là d'Israël, tu es né Israël. Et c'est ce qui s'est passé à Pessah. On a vu la naissance d'un peuple. On n'a pas jugé les actes que ce peuple faisait. Et donc, Pessah Sheni, sans se poser la question, est-ce que ça rappelle plus le gouf ou ça rappelle plus la Neshama? Forcément, on parle du gouf, puisque c'est Pessah Sheni, c'est forcément comme Pessah. Et ça arrive le 14 Iyar. Et donc, on a Pessah, gouf. Yom Hatzmaout, gouf. Le Pessah Sheni, le gouf. Et là, il se passe le 18 Iyar, 4 jours à peine après Pessah Sheni, arrive l'Agba Omer. L'Agba Omer, on parle de la joie Simchat Rashbi de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et là, on s'étonne comment ça se fait que l'homme Israël est l'une des feux. Nous, quand on était en Galoute, on n'allumait pas des feux, on allumait des bougies pour les tzadikim. Là, on met en avant quoi? On met en avant les secrets de la Torah profonde du Zohar que Rabbi Shimon Bar Yochai va dévoiler ou a découvert ou a eu accès. En tout cas, l'Agba Omer vient mettre en avant le fait qu'il y a une âme profonde d'Israël, qu'il est très, de manière extérieure, des fois, on n'est pas capable de le voir. Mais lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il voit la profondeur de l'âme d'Israël qui cache des secrets divins, qui est en rapport avec le divin, qui est divine, qui est hors de sa nature, et personne ne pourra effacer cette âme-là. Il vient, je vous rappelle qu'il vient après le massacre des 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Et il est la résurrection des élèves de Rabbi Akiva, la continuité qu'on ne pourra jamais effacer, l'âme d'Israël représentée par la Torah, représentée par les élèves de Rabbi Akiva. Et donc Rabbi Shimon Bar Yochai commence à nous faire une petite bougie, une petite lumière, nous rappeler l'âme d'Israël, cette même Neshama. Et on avance dans le temps. Le 28, ça c'est le 18 Iyar, et le 28 Iyar de notre génération est arrivée la fête de Yom Yerushalayim, le jour du retrouvail avec le Kotel, le peuple d'Israël indépendant. Le jour de Yom Hatzmaut, c'était le 5 Iyar 1948, c'est 1708, et pendant 19 ans, nous n'avions pas accès à quoi d'Israël? On n'avait pas accès, vous l'avez étudié, je pense, avant, dans tous les magnifiques shiurim que vous avez eus, avec nos maîtres, on n'avait pas accès au Kotel. À Jérusalem, il y avait la vieille vie, on n'avait pas accès à Hebron, on n'avait pas accès à Shrem. Hebron, ça veut dire qu'on ne pouvait pas se prosterner sur le kever de Adam et Chava et de Abraham et Sarah et d'Israq et Rivka et de Yaakov et Léa. On ne pouvait pas aller sur Yosef Hatzedik, on ne pouvait pas aller au Kotel, on ne pouvait pas aller à l'endroit du Migdash. Donc on avait un Israël, mais qui mettait en avant que le côté du corps, l'âme de cette renaissance, de la nation. Alors, ça s'est passé le jour de Yom Yerushalayim, après la guerre des 6 jours en 1967. Et là, de nouveau, on voit l'apparition de l'âme, le pourquoi, ou le Kodesh qui se dévoile, la Kdusha qui se dévoile. Et ça, c'est la continuité, qu'à partir de l'Akba Omer, il y a un changement. On commence à voir l'âme d'Israël doucement, doucement apparaître. Yom Yerushalayim. Je dis souvent qu'une personne qui fête Yom Ha'atzmaut et qui fête pas Yom Yerushalayim, c'est comme s'il fête Pessah et qu'il fête pas Shavuot. Ou même l'inverse. Une personne qui ne fête que Yom Yerushalayim, parce qu'il dit non, quand on a retrouvé le Kotel, ça, je vois la main d'Hachem. Mais Yom Ha'atzmaut, je ne fête pas. Alors, c'est comme une personne qui va fêter Shavuot sans fêter la fête de Pessah. Or, HaKadosh Baruch Hu, il veut qu'on fête non seulement Pessah, mais aussi Shavuot. Non seulement Shavuot, mais aussi Pessah. On doit être capable de voir les événements divins, comment HaKadosh Baruch Hu fait, même quand, de niveau extérieur, tu vois que le gouffre. Mais qui donne vie à ce gouffre, si ce n'est pas HaKadosh Baruch Hu? Et là arrive la dernière étape. Puisque Yom Yerushalayim, si on se pose la question, gouffre ou Neshama, forcément Yom Yerushalayim, mais le côté de la Neshama, on a. Et le summum, c'est Shavuot. Shavuot, ça va être le don de la Torah, où là, véritablement, qu'est-ce qui va se passer? On arrive au summum de l'élévation, où le âme Israël a reçu la Neshama d'Israël. Et j'explique. Lorsqu'on est sorti d'Égypte, encore une fois, on est 49e degré d'impureté. C'est le corps d'Israël qui sort. Lorsque HaKadosh Baruch Hu va attendre tous ces jours d'élévation pour nous donner la Torah, c'est comme s'il attend ces jours-là pour que nous puissions recevoir notre Neshama, notre âme d'Israël. Et j'explique. Lorsque dans la Tfila, le jour de Shavuot, on dit que c'est le Zman Matan Toratenu. C'est le jour, le moment, le temps du don que nous avons reçu la Torah. Nous avons reçu la Torah. Et on s'étonne. Pourquoi? Parce que si on revoit les événements de Shavuot, alors on voit qu'on n'a pas reçu la Torah. On a entendu deux paroles parmi les 10 paroles. Et les 8 autres paroles, Hachem les a données à Moshe, qui après va transmettre au peuple d'Israël. Donc, ni on a reçu les tables de la loi. Les tables de la loi, on aurait dû les recevoir le 17 Tammuz, quand le lendemain de Shavuot, Moshe va monter pour 40 jours, 40 nuits au mont Sinaï, et qui doit revenir le 17 Tammuz pour nous donner l'étape de la loi. Or, il va avoir le Hegel, le veau d'or, la faute du veau d'or, il va casser l'étape de la loi. Et l'étape de la loi, on va la recevoir seulement à Kippour d'après. Donc, le jour de Shavuot, on n'a pas reçu l'étape de la loi, on n'a pas reçu la Torah. Comment dans la Tfila, nos sages ont institué de dire c'est le jour du don de la Torah? Alors, certains Chachamim m'ont expliqué que les 10 paroles que nous avons entendues, ça résume, c'est une essence de toute la Torah. Et il donne des lemazim pour savoir en quoi c'est une allusion à toutes les mitzvot de la Torah, ces 10 paroles. Ils vont diviser chaque table de la loi, c'est une table pour les mitzvot entre nous et Hachem, et une table des mitzvot entre nous, des commandements entre nous et notre prochain. Et comme d'une première partie, il divise comme ça la Torah, toutes les mitzvot de toute la Torah. Et ensuite, chaque mitzvah, à quoi ça fait référence, etc., pour trouver les fameuses 613 mitzvot dans les 10 commandements, des 10 paroles. C'est possible. C'est possible. Mais il faut être un grand Talmid Chacham pour voir le rapport entre les 10 paroles et tout le reste de la Torah. Alors que la phrase est claire. C'est le jour où nous avons reçu la Torah. Or, on a entendu 10 paroles. Et le mieux, on a entendu 2 paroles d'Akadosh Baruch Hu. Il y a un Midrash extraordinaire qui dit la chose suivante. Elle dit que lorsqu'on a entendu, on a demandé d'abord à Moshe Rabbeinu que Hachem nous parle et pas Moshe. Et on a entendu les 2 premières paroles. Lorsqu'on a entendu les 2 premières paroles, parha nishmatam. Parha, ça veut dire ifroir, ça veut dire fleurir, mais dans le sens de s'envoler. C'est envoler l'âme de chacun. C'est-à-dire, au moment où on entend la parole de Kadosh Baruch Hu, ben, Seret Hadibrot, parha nishmatam, leur âme s'est envolée. En d'autres termes, c'est-à-dire que si l'âme se sépare du corps, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il n'y a plus de vie. Et au moment où HaKadosh Baruch Hu va leur parler, il va redonner une âme au peuple d'Israël. Cette âme-là que chaque dé Israël qui se tenait au Sinaï a reçue, c'est l'âme d'Israël. Matan Torah, c'est dans le sens on a reçu notre Torah égale on a reçu notre Neshama. On a reçu notre Neshama, notre âme. Et dans cette âme-là est marquée toute la Torah. Dans cette âme-là est marqué toute la Torah. Ou je vais dire d'une façon différente. Mori Virabi Rav Yoshua Zuckerman nous disait la chose suivante. Il nous disait, prenez une bouteille, et cette bouteille est remplie d'eau. Et il y a l'étiquette qui explique de quelle manière, quels sont les ingrédients de cette eau, quelles sont les molécules, combien de calcium, combien de magnésium, combien de fer, etc., etc., qui se trouvent dans cette eau. Il nous posait la question, il nous disait, qu'est-ce qui est plus important, l'étiquette ou l'eau elle-même qui est contenue dans cette bouteille? Alors, tout le monde, de manière évidente, disait, bien sûr, c'est l'eau. L'étiquette, elle vient seulement mettre, écrire ce qui est à l'intérieur de l'eau, la nature de cette eau. Il disait la chose suivante, il disait, c'est la même chose, le rapport qui existe entre les écritures de Torah et l'âme du peuple d'Israël. Vous voyez tous les livres derrière? Tous ces livres-là, ils viennent écrire ce qui a marqué ici en nous. Ils viennent écrire ce qui a marqué ici en nous, dans notre âme. De manière poétique, on pourrait dire la chose suivante. Ce qui a marqué dans la lettre de la Torah, c'est dans l'être d'Israël. C'est-à-dire, la lettre, elle vient juste exprimer l'être d'Israël. Elle met par écrit ce qui est ici. Et il y a plein de conséquences au niveau de l'Halakha. Qu'est-ce qui est plus important, les écrits de Torah ou l'être d'Israël, même un être d'Israël qui ne fait pas la Torah? Pourquoi? Parce que la Torah qu'on lit avec nos yeux dans ces lettres-là, elle vient mettre à l'extérieur ce qui est marqué au fond de nous. Et il y a près de 150 ans, le Rachar Hirsch, Rav Shimshon Refer Hirsch, il va dire une chose extraordinaire. Il va donner la Hagdara, la définition très précise de ce que c'est la Torah. Et il va dire la chose suivante. Il va dire, la Torah est la loi des existants. Et tous les existants font de manière contrainte et sans liberté ce que l'homme doit faire d'une manière libre et éveillée par sa volonté. Et la loi de l'existant s'appelle Torah. En d'autres termes, la première fois, ça m'avait choqué, j'avais entendu du Rav Zuckerman, c'était des phrases que la première fois où tu entends ça, tu dis, c'est pas possible, c'est pas normal ce qu'il dit. Il disait, la Torah, c'est les lois de l'existence. Il y a la Torah du chat, Torah tachatoul, la Torah du chat. Il y a la Torah du chien, Torah akelev, la Torah du chien. Et il y a la Torah d'Israël. Maintenant, quand tu entends ça, tu veux fermer tes oreilles, tu dis, comment le Rav peut dire Torah et un chien? Comment c'est possible? Torah et un chat? Féken, parce qu'on n'a pas la bonne définition. La Torah, c'est Chouke Havaya. La Torah, c'est les lois de l'existant. Or, le chien, de manière automatique, de manière TV instinctive, va réaliser sa Torah. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas de liberté. Il n'a pas de libre arbitre. Il est robotisé, poussé par l'instinct. Et il doit réaliser forcément sa Torah. Mais c'est quoi la Torah? C'est les lois de vie qui sont marquées en lui. Contrairement à l'homme. À l'homme, lui aussi, il a des lois de vie marquées en lui. Mais Akadosh Baruch Hu lui a retiré l'esclavage de l'instant et lui a donné la liberté de découvrir quelles sont les lois de l'existence qui sont en lui. Et toute l'étude de l'extérieur, ces livres-là, qui vont permettre à Israël seulement. C'est-à-dire, la Torah orale, je vous rappelle, ça concerne qu'Israël, la nature d'Israël, seulement si sa mère est juive ou le convertit, en expliquant comment c'est possible. Qui va lui permettre de comprendre, ces livres-là, ils vont lui permettre de comprendre qu'est-ce qui a marqué à l'intérieur de son être et de réaliser d'une manière libre l'existence qui est en lui. Alors là, il dévoilera sa Torah. Mais chas v'shalom de penser que la Torah... C'est une loi extérieure à nous qui essaye de moduler, de formater, de propaganiser. Bon, vous comprenez bien que c'est faux, ça n'existe pas. Mais dans le sens de formater de l'extérieur un être religieux. Chalila vechas. Et là, on parle d'une Torah, c'est Chukei Havaya, les lois qui sont marquées dans ma vie, dans l'existant. Si on me retire maintenant le libre arbitre, Je serai le plus grand tzaddik, le plus grand kadosh, parce que je saurai exactement comment réaliser la vie qui est marquée en moi. Et qui c'est qui a marqué cette vie en moi? La Havaya Baruch. Est-ce que vous avez des questions intuitives? Shalom Rav, deux questions. 49 jours plus un. Quand neuf, on a expliqué, c'est par rapport à la nature. Et c'est en fait 51. C'est Pessah, Shavuot, c'est 51. Premier jour, 1, 49, et 50, on arrive à Nahashem Oshiana. On arrive au Na, Nun Aleph, 51. Rien à voir avec le pastis, c'est à voir avec la spiritualité qu'on attend, la relation qu'on a avec Kadosh Baruch Hu. Est-ce que vous avez d'autres questions? Maintenant, je reviens par rapport au lignan de la Torah. Donc, Matan Torah, ça veut dire on a reçu notre Neshama. Cette Neshama, c'est la Torah. Maintenant, c'est...
Moi, j'ai une question.
Ken, Yaakov.
Alors, est-ce que c'est possible, parce que je sais que Manitou disait la phrase Moshe Kibel Torah Misina, il disait Moshe Kibel Torah Velo A Torah. Donc, est-ce que c'est possible qu'il y a une partie de cette Torah qui n'ait pas encore été dévoilée totalement et que...
La Torah d'Israël, non, mais la Torah, il parlait ça par rapport à la Torah du monde. C'est une loi de l'existence du monde. Mendeleïev, il va dévoiler la Torah qui est dans la matière. Voilà. Newton, il a dévoilé la Torah qui est dans la matière. C'est-à-dire, nous, on parle, Moshe Kibel Torah Misinaï, de la Madriga qu'on avait au Sinaï, de Israël chez Hamad al Arsinaï, de Israël qui était au Sinaï, de ce niveau spirituel qui était d'Israël. Ça, c'est ça la Torah d'Israël. Après qu'il y aura d'autres dévoilements dans un million d'années, ça, quand le monde sera parfait, etc., il y aura peut-être d'autres dévoilements, parce qu'on dit les mises votes, elles seront annulées. Il y aura quelque chose, un dévoilement d'autres. Mais tout le temps dans le même principe, c'est que c'est la Vaya Vagro qui marque l'existence et que nous, on doit réaliser ça.
Donc, c'est comme ce qu'on disait, qu'il y aura une, entre guillemets, enfin, peut-être pas entre guillemets, mais une suite au Tanakh qui doit réduire.
Bon. C'est clair, c'est dynamique, c'est pas quelque chose de... Non. Même le Tanakh, il a été écrit, c'est pas quelque chose de fermé, c'est parce que chez Nisra Ledorot, c'est une prophétie que les générations futures, elles ont besoin. Quand on aura dépassé le stade, on n'aura plus besoin de ça. Ça va? Quoi d'autre? Est-ce que vous avez d'autres questions?
Oui, Shalom Arav Partouche, comment allez-vous?
Ça va?
Oui, alors j'avais une question, je l'ai mis dans le chat, mais j'ai vu qu'elle n'a pas été répondue. J'ai dit, mais on sait pourtant que le peuple d'Israël ne savait pas à la sortie d'Égypte qu'il allait recevoir la Torah. Alors comment est-ce que on peut, nous, s'y attendre à partir de Pessah, alors que même l'homme Israël, au départ, il ne le savait pas?
Non, tu as raison. D'abord, demande au Rav Shirky, parce que ta question, elle est inspirée de l'enseignement du Rav Shirky, mais à part ça, je m'explique. Il est clair que ils vont pas prendre cette conscience de « je me prépare Matan Torah ». Je n'ai pas dit ça. Mais ils vont commencer à prendre conscience de l'action qu'Akadosh Baruch fait dans ce monde. La preuve, c'est quoi? C'est que, par exemple, on va arriver à « Vayaminu Bashem ou Moshe Abdo », c'est à Kriyat Yamsouf. Et là, ils ont commencé à comprendre qu'il y a le divin qui intervient dans ce monde pour dans le combat du bien et du mal, alors le divin est prêt à combattre contre le mal. Il y a une justice sur cette terre. Et s'il y a une justice sur cette terre, ça te met qu'un monde, le monde est moral. Où est-ce que je me trouve par rapport à ce monde? Il commence à avoir un éveil par rapport à ça. Le lendemain, on va leur donner Shabbat. Il va avoir un éveil moral et spirituel qui va se faire, même si ils savent pas que le summum, ça va être eux, d'après eux, c'est le summum, c'est d'arriver en Eretz Israël. Mais c'est sûr que de dire que jusque-là, ils sont en stand-by, il n'y a pas d'éveil moral, d'éveil spirituel, non, c'est le nord. Il y a une évolution, c'est-à-dire même à travers les mêmes. Pourquoi ne fait-on pas une joie à Kippour, sachant que ces jours, le jour le plus heureux, c'est Kippour? Ok, non, c'est faux. Pourim, c'est le jour le plus heureux, et Kippour, c'est comme pourri. Et c'est un jour heureux aussi. C'est un jour de Tfila, c'est un jour où on est proche d'Hachem, c'est un jour où on est comme un Malachim. Et là-bas, il n'y a pas de hatzvout. Il n'y a pas de tristesse. Personne ne sort en pleurant de Kippour, pleurant de joie, pleurant d'allégresse, pleurant du pardon, de « waouh, j'étais pardonné, je me sens acquis ». Après Kippour, tu appelles toutes les personnes avec qui tu étais mal et tu te sens pur. C'est un jour de joie, au contraire. D'autres questions? Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, ça veut dire que soit bon, j'ai mal expliqué, soit c'est trop simple. En tout cas, tout ça pour vous dire que tout le but de cette élévation, c'est recevoir la Neshama. Et je rajoute un point. Lorsque, à l'image de cet enfant qui vient à naître, qui a donné naissance à cet enfant? La Neshama qui est en train de descendre sur Terre. Alors, si on pouvait faire une image comme ça, cinématographique, c'est une âme qui descend sur Terre, ça met dans la Terre tout en place pour que cette âme puisse se réaliser à travers le corps. C'est-à-dire, c'est faux. Quand j'ai commencé à vous dire le corps, pensez une seule seconde qu'il n'y a que le corps en soi. Non, ce corps-là, il réalise parce que la Neshama est en train de descendre. Faites le truc où je dis plus profond par rapport à la chassidou. Les chassidim disent qui accompagne sous la roupa un homme et une femme, c'est les enfants, leurs propres enfants, qui ne sont pas encore nés. Comprenez? Alors, qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en fait? Ils sont en train de dire quelque chose de très, très, très profond. C'est-à-dire, l'âme de cet enfant est en train de descendre et un homme et une femme qui se rencontrent et que grâce à cette unité-là, grâce à cette âme qui descend, ça fait l'unité entre un homme et une femme. Parce que eux vont être les kélis par lesquels cette âme va se réaliser. C'est-à-dire? Et l'enfant, vraiment, c'est-à-dire le corps de cet enfant qui est en train de paraître et le spermatozoïde, l'ovule qui sont en train de se former, c'est parce qu'il y a cette âme qui va bientôt apparaître. Et quand est-ce qu'on va voir cette âme? À la bar mitzvah, à 20 ans, etc. Là, on va voir l'apparition de cette âme. Si on la voit, il y a des fois des personnes qui arrivent à cacher ça terriblement. Mais ce corps-là, c'est pas détaché à l'âme, c'est Neshama Gouf pour pouvoir que le Gouf dévoile la Neshama. C'est que Neshama, c'est ça que je vous dis, c'est que Torah. En tout cas, ce fut un plaisir d'être avec vous et je vous souhaite Chag Sameach.
Tada rabba, Rav. Chag Sameach.